Aujourd'hui, à Washington.
Abdelrahman Dia en direct de Washington pour vous présenter cette édition de 17h30 temps universel du mercredi 24 janvier 2018 au sommaire. Offensive de l'armée congolaise contre un groupe de rebelles Mai Mai dans l'est de la RDC. Au Sénégal, un chef rebelle du MFDC menace de rompre la trêve avec l'armée qui mène des opérations en Casamance. Arrestation en Libye de 6 personnes accusées d'avoir torturé des migrants. En Afghanistan, le siège de l'ONG Save the Children attaqué à Jalalabad. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous en République démocratique du Congo. Des affrontements à l'arme lourde ont opposé des soldats congolais aux rebelles Mai Mai Yakutumba au sud de Kivu, notamment dans le territoire de Fizi. Ces affrontements ont entraîné une panique générale de la population la nuit dernière. Le point avec Ernest Mouero.
Selon la société civile locale à Baraka, pendant ces affrontements sur les lacs Tanganyika, un obus tiré en plein cité de Baraka a entraîné la mort sur le champ d'un garçon de 16 ans et 4 blessés, dont une femme dans un état très critique. Une certaine opinion à Baraka pense que cette attaque de Yakutumba était un acte de sabotage, car elle intervient moins de 10 minutes après le passage du gouverneur de province Claude Nyamugabo dans cette partie du Sud Kivu. Tout l'avant-midi de ce 24 janvier, la cité était calme avant que vers 13h heure locale, d'autres crépitements des balles et bombardements déchirent l'atmosphère, cette fois en direction de la presqu'île d'Ubuari, en grande partie contrôlée par Yakutumba. Selon les porte-parole adjoints de l'armée congolaise au sud Kivu, le capitaine Diedoné Kasereka, il s'agit d'une contre-offensive des FARDC qui, depuis 3 jours, multiplie d'autres attaques offensives contre les Mai Mai Yakutumba, particulièrement dans le secteur de Nganja, afin de les y déloger. D'autres sources parlent d'intenses combats dans les localités de Makama, Nemba et Kikonde à une quarantaine de kilomètres de Baraka. Pour l'heure, difficile de confirmer si l'armée régulière a déjà les contrôles de Kazimia, considéré comme le bastion de la rébellion de Yakutumba. De Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Toujours en République démocratique du Congo, des responsables d'une maternité à Kinshasa et les Nations Unies accusent la police d'avoir tiré des gaz lacrymogènes dimanche dans l'enceinte du bâtiment tenu par les catholiques. La police dément catégoriquement. Dire que la police tire intentionnellement sur une maternité est un mensonge inacceptable. La police congolaise n'est pas sadique, a déclaré le chef de la police de Kinshasa, Silvano Kasongo. La maternité Binza Delvo se trouve près de la paroisse du Saint-Sacrement où des fidèles ont marché dimanche après la messe contre le pouvoir de Kabila. Un journaliste tchadien est en garde à vue depuis lundi suite à une plainte de l'ambassade du Soudan au Tchad. Le directeur de publication d'un journal arabophone, Mamad Issa Abakar, devrait être entendu demain jeudi. Le journal avait rapporté fin décembre que le président soudanais Omar el-Béchir aurait conseillé au président turc Recep Tayyip Erdogan de ne pas beaucoup investir au Tchad parce que le Tchad est un pays instable. Le Haut Conseil de la communication a demandé au journaliste Dal Shahid d'apporter les preuves, ce que le journaliste n'aurait pas fait selon le HCC. En Guinée équatoriale, quelques 135 militants de l'opposition ont été inculpés et sont actuellement détenus dans une prison du centre-sud. Selon leur avocat, les charges contre eux seront dévoilées lors de leur procès, dont la date n'a pas encore été fixée. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema fait état de l'arrestation d'une vingtaine d'opposants. Le Parti citoyen pour l'innovation parle de plus de 200 de ces militants qui sont détenus sans motif. Au Sénégal, un chef de la rébellion MFDC en Casamance, Salif Sayo, a averti que les opérations lancées par l'armée sénégalaise depuis le massacre de 14 forestiers pourraient remettre en cause la trêve. Le point avec Nathalie Barche.
Entouré d'une cinquantaine d'hommes lourdement armés dans une forêt près de la frontière avec la Gambie, Salif Sadio a déclaré que le mouvement démocratique des forces de Casamance observe depuis 3 ans une trêve unilatérale. Selon ce chef rebelle, la tuerie n'a été qu'un prétexte qui a servi à l'armée sénégalaise pour déclencher des opérations militaires en Casamance. Si les opérations se poursuivent, nous serons obligés de rompre la trêve et cela peut mettre en cause tout le processus de paix, a-t-il ajouté, en référence à la reprise des négociations en octobre sous l'égide de la communauté de Saint-Égidio. Depuis le massacre de 14 hommes dans la forêt de Bayotte, l'armée multiplie les opérations de ratissage. 20 suspects ont été arrêtés, 16 ont été inculpés et 2 rebelles présumés ont été tués. Les premiers accrochages avec les militaires sénégalais depuis des années.
Les autorités zimbabwéennes annoncent des élections présidentielles et législatives avant juillet de cette année. Le nouveau président Emmerson Mnangagwa a indiqué lors du Forum économique mondial de Davos qu'il sera en mesure d'annoncer la date des élections le mois prochain. Il a promis des élections libres, justes, crédibles et non violentes. En Libye, un groupe armé loyal au gouvernement d'Union nationale a annoncé ce mercredi l'arrestation d'une bande accusée d'avoir enlevé et torturé des migrants soudanais. Les précisions avec Dili Diko.
Les arrestations ont lieu à Kadaïa, un village au sud de Sirte, à l'est de la capitale Tripoli, suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant des scènes de torture contre des migrants africains. Les images révèlent des migrants sévèrement brûlés par des ravisseurs qui réclament des rançons à leurs familles. Selon le groupe armé qui les a capturés, il s'agit d'une bande composée de 5 Libyens et d'un Palestinien qui ont brutalisé 8 migrants actuellement soignés dans un hôpital à Sirte. Le groupe armé qui a arrêté les tortionnaires a également combattu l'an dernier les djihadistes de l'État islamique aux côtés des forces du gouvernement d'Union nationale dans la ville de Sirte. La Libye demeure une plaque tournante pour des centaines de milliers de migrants africains qui tentent de rejoindre l'Europe. Tout récemment, des images d'une chaîne de télévision prouvant que certains migrants sont vendus comme des esclaves en Libye avaient déchaîné une vague de colère et des manifestations à travers le monde.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a déposé sa candidature à l'élection présidentielle, dont le premier tour se tiendra le 26 mars. Élu en 2014 pour un mandat de 4 ans, al-Sissi avait annoncé la semaine dernière son intention de se présenter pour un second mandat. Il est le seul candidat à ce jour à présenter formellement sa candidature pour cette élection. La date limite pour le dépôt des candidatures est pour ce lundi 29 janvier. Plusieurs autres candidats qui avaient annoncé leur intention de se présenter ont été soit disqualifiés ou ont annoncé le retrait de la course à la présidentielle.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afghanistan, au moins 3 personnes ont été tuées dans l'attaque du groupe État islamique contre Save the Children à Jalalabad. L'ONG britannique a suspendu ses opérations dans ce pays. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Après une certaine confusion, le calme est revenu et les employés qui s'étaient cachés dans la safe room, une pièce sécurisée de leur bâtiment, ont tous été évacués sains et saufs. L'attaque à la voiture piégée a duré plus de 7 heures. 2 gardes de l'ONG Save the Children et 1 civil ont été tués, 27 autres blessés. Ataoula Gogiani, porte-parole du gouverneur provincial, a affirmé que 6 assaillants, vêtus d'uniformes militaires, ont mené l'attaque. L'un d'entre eux a péri en déclenchant sa veste explosive. Les autres ont été abattus par les forces de sécurité. Le groupe État islamique qui a revendiqué l'attaque n'a mentionné que 3 martyrs. L'ONG Save the Children a suspendu ses opérations. Le président afghan, Ashraf Ghani, a condamné cette attaque. Le week-end dernier, un assaut contre un grand hôtel de Kaboul a fait plus de 20 morts. Le 31 décembre, un attentat à Jalalabad avait fait 18 morts, mais cette tuerie n'a pas été revendiquée et les talibans ont dit qu'ils ne sont pas les auteurs.
La nouvelle session de pourparlers de paix sur la Syrie démarre demain à Vienne sous l'égide des Nations Unies. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré ce mercredi que ces discussions constituent le dernier espoir de trouver une solution politique au conflit qui ravage le pays depuis 2011. Le gouvernement allemand va demander à la Turquie des explications sur l'offensive contre une milice kurde en Syrie. Berlin a livré 354 exemplaires de ses blindés entre 2006 et 2011 à la Turquie. Il est totalement exclu que l'Allemagne continue à augmenter la puissance de combat des chars Léopard en Turquie si le gouvernement turc s'en prend aux Kurdes en Syrie, a déclaré un élu proche de la chancelière Angela Merkel. Le chef du Parlement catalan souhaite que Carles Puigdemont puisse être présent à Barcelone pour son investiture. en le qualifiant de président de la Catalogne en dépit de sa destitution par le gouvernement central. Le dirigeant indépendantiste Carles Puigdemont, de son côté, a laissé planer le suspense sur son éventuel retour en Espagne, où il est recherché par la justice et risquerait d'être arrêté. Le ministre britannique chargé du Brexit a estimé qu'un accord avec l'Union européenne sur la période de transition après la sortie de la Grande-Bretagne pouvait être conclu d'ici à la fin du mois de mars. Cette période de transition doit commencer à la date officielle du Brexit prévue pour le 29 mars 2019 et durer environ 2 ans pour permettre au Royaume-Uni de s'adapter à de nouvelles réglementations et à sa nouvelle relation avec les 27 pays de l'Union. Et puis la ministre israélienne de la Culture s'est félicitée de la non-sélection aux Oscars de Foxtrot, un film controversé israélien. Miri Regev estime que ce film dénigre l'armée israélienne. Le film Foxtrot du réalisateur Samuel Maoz a été primé l'an dernier à la Mostra de Venise. Mardi, Madame Regev, qui a admis n'avoir pas vu Foxtrot, a expliqué que sa colère n'était pas liée à des questions artistiques mais à l'image d'Israël qu'il projette à l'étranger. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco avec Eric Manelakiza.
La production d'or de la Côte d'Ivoire a augmenté de plus de 2% et a atteint 25 tonnes en 2017. Le gouvernement a précisé que des gisements prometteurs étaient en cours de développement. Le secteur minier dans son ensemble, l'or, bauxite, nickel, cuivre, fer a rapporté 539 milliards de francs CFA au pays. La Côte d'Ivoire ambitionne de devenir un important pays minier d'Afrique de l'Ouest. L'Union européenne veut renouer avec le Zimbabwe et à soutenir le réengagement des institutions financières internationales auprès du pays. Mais l'Union européenne demande au préalable un programme clair de réformes politiques et économiques. Les relations se sont fortement dégradées dans les années 2000 à la suite du programme controversé de réformes agraires de Robert Mugabe. Aux États-Unis, le Sénat a confirmé Jerome Powell comme nouveau président de la Fed, la banque centrale américaine. Monsieur Powell était déjà membre du directoire de la Réserve fédérale depuis 5 ans. Il a notamment soutenu la sortie de la politique d'assouplissement monétaire quantitatif initiée après la crise financière et la remontée progressive des taux d'intérêt. Il succède à la démocrate Janet Yellen et devient le 16e président de la puissante banque centrale, une institution un peu plus que centenaire.
Voilà, on démarre cette page des sports avec vous, Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Les derniers matchs des phases de poule du CHAN se jouent ce soir.
Tout à fait, Abdourahmane. 2 matchs au programme dans le groupe D. Burkina Faso, Cameroun et Congo, Angola. Coup d'envoi, 19h, temps universel. Les Diables Rouges du Congo sont déjà qualifiés pour les quarts avec 2 victoires en 2 matchs. Les Palancas Negras de l'Angola, eux, y sont presque 1-0. L'heure suffirait pour voir les quarts. Le Cameroun est out après 2 défaites en autant de matchs. Les Étalons tiennent un mince espoir difficile à réaliser. Il faudra compter sur une défaite de l'Angola et gagner avec 2 buts d'écart face aux Lions indomptables. Pas évident pour les garçons de Drissa Malo Traoré, dit saboteur, qui n'ont pu inscrire le moindre but en 2 rencontres.
Et puis le Nigeria et la Libye se sont qualifiés hier pour l'écart. Alors que de regrets par contre pour le Rwanda.
Triste Abdourahmane, scénario cruel pour le Rwanda qui tenait après 90 minutes une qualification pour l'écart. Les Amavubi sont finalement éliminés sur un but de la Libye à la 93e minute. Dans l'autre match, le Nigeria a conforté sa première place qualificative en dominant la Guinée équatoriale 3-1. Chevalier de la Méditerranée Super Eagles connaîtront leurs adversaires des cas ce soir à l'issue des matchs Burkina Faso Cameroun et Congo-Angola.
On parle aussi de la Ligue des Nations en Europe, une compétition très complexe apparemment.
Oui, c'est une nouvelle compétition qui remplace les matchs amicaux et offre 4 billets supplémentaires pour l'Euro 2020, en plus des éliminatoires habituels. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par ce tournoi, l'UEFA veut donner plus de relief aux années sans Euro ou sans Coupe du Monde. Au total, 55 nations européennes sont reparties dans 4 ligues divisées en poules de 3 où 4 équipes vont s'affronter pendant une phase de groupe de septembre à novembre 2018.
Merci beaucoup Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, on passe au dossier du jour. En République démocratique du Congo, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Mossengo, a appelé les Congolais à rester inflexibles malgré les dernières répressions meurtrières de marche contre le président Joseph Kabila. Un comité laïque de coordination qui a organisé ces manifestations veut absolument obtenir du président Joseph Kabila des garanties qu'il ne va pas briguer un nouveau mandat en le déclarant publiquement. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Bruxelles un consultant diplomatique. Il s'agit d'Henri Désiré Zouzi.
Le seuil de tolérance a été largement dépassé. Jusqu'ici, le cardinal, qui avait déjà affiché une attitude de fermeté, s'était néanmoins abstenu d'envenimer la situation. Mais au regard des derniers développements de l'actualité, il ne pouvait pas faire autrement que de sortir de sa réserve et de soutenir d'une certaine manière, au fond, ce mouvement de résistance qui s'est mis en place depuis le 31 décembre dernier.
Est-ce que l'Église ne s'écarte pas de son rôle traditionnel ?
On a souvent reproché à l'Église de ne pas s'impliquer suffisamment dans la résolution des conflits. On se souvient en 2011, notamment lorsque la réélection de Joseph Kabila avait été contestée, que cette même Église avait son propre décompte et finalement une idée sur l'ordre d'arrivée du scrutin. Et puis elle a botté en touche au prétexte qu'il fallait préserver l'Église au milieu du village. On se rend compte après 7 ans que non seulement elle a eu l'occasion de mûrir dans sa réflexion, mais qu'elle a été associée également dans la recherche d'une solution, puisque vous le savez, en 2016, la CENCO s'est impliquée pour que l'on aboutisse à ce fameux accord de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, cette même Église, à travers la coordination des laïcs, essaye simplement de rappeler l'importance de respecter un accord dont il faut garantir à la fois le respect, mais qui soit de nature à permettre aux Congolais de ce que les élections se tiendront à la date prévue telle que convenue.
Pensez-vous que le dialogue était encore possible parce que la mobilisation continue apparemment ?
Ce que j'entends par voie du dialogue, c'est une réponse autre que la violence. C'est d'accepter par exemple que les gens puissent manifester pour exprimer leur inquiétude, leurs préoccupations, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est tout de même de faire en sorte que cet isolement dans lequel semble s'enfermer le régime ne puisse pas avoir d'autres conséquences. Ce qui se passe à l'heure actuelle en RDC, vous avez un désengagement massif au niveau des investissements étrangers, vous avez un délitement des conditions économiques et sociales. Ce que l'on ne voit pas aujourd'hui, en dehors des images de violence que nous sommes habitués de voir depuis plusieurs semaines maintenant, il y a ce que l'on ne voit pas et qui peut avoir des conséquences potentiellement incalculables pour la RDC.
C'était Henri Désiré Nzouzi, consultant diplomatique joint à Bruxelles.
Bonsoir à tous, c'est Kia Badou avec vous et je vous donne rendez-vous à 18h pour votre émission interactive à votre avis. Du lait pour bébés périmé ou contaminé à la salmonelle et retiré des ventes dans plusieurs pays comme le Sénégal et le Cameroun. Et ceci n'est pas un cas isolé. Que pensez-vous des nombreux produits périmés comme les denrées alimentaires ou même les médicaments présents sur le marché africain ? Laissez vos numéros et commentaires ou appelez en direct à 18h en temps universel au 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur www.voafrique.com.
Au Congo-Brazzaville, les membres de la société civile dénoncent des pratiques de la corruption qui gangrènent, selon eux, l'économie nationale. Ils restent sceptiques suite aux multiples enquêtes lancées par le procureur de la République. Le reportage d'Ongwel Angoussou à Brazzaville.
La gangrène est profonde et le Congo-Brazzaville reste l'un des pays les mal classés dans la corruption. Certains critiques pensent même que c'est devenu un sport national. Jean-Marie Ibarra de la société civile à Owando, dans le Nord.
Mais c'est courant qu'un directeur départemental qui arrive au Trésor et pour n'est-ce pas avoir accès à ces crédits, il doit reverser un pourcentage aux agents du Trésor. C'est courant. Les enseignants sont corruptibles. Et ça, c'est très courant pendant les examens.
Pour l'analyste économique Augustin Benazo, le Congo est noyé dans la corruption et cela entrave son émergence économique.
Le secteur qui subit du point flou la corruption, nous avons la douane qui représente à peu près de 37%. Les marchés publics représentent près de 30%. Le système judiciaire représente près de 30%. Le Congo est devenu endémique au niveau Congo. Il y a des conséquences sur le niveau de vie de la population. Les indicateurs sociaux sont toujours très alarmants. Le seuil de la pauvreté est à 50% au Congo.
Récemment, les autorités, dont le président Denis Sassou Nguesso lui-même, se sont attaquées au phénomène en décriant le manque de sanctions dans l'administration publique. Lamir Nguele, président de la commission de lutte contre la corruption, en fait presque un rapport alarmant.
Courant l'an 2014, un crédit d'un montant de 1 milliard a été alloué pour le traitement antipaludique complet. Malheureusement, cette somme a servi uniquement pour l'achat des solutés de glucosés 5% et des solutés salées de 10% auprès d'une société de la place, sacrifiant ainsi les populations d'un traitement approprié contre le paludisme. En outre, ce marché de gré à gré a été conclu sans contrat préalable et a été payé en totalité avant la fourniture des médicaments, en violation des dispositions réglementaires sur la passation des marchés. Au moment de l'enquête, la société détenait encore, curieusement, dans ses entrepôts, plus de 40% du stock vendu.
La société civile ne cesse de dénoncer des pratiques qui frisent la corruption dans les milieux officiels. Fortuné Mekson Animba, président du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme, doute même de l'aboutissement des enquêtes judiciaires et de police enclenchées dans le pays.
La corruption ne va pas s'arrêter parce qu'on a arrêté 2-3 petits poissons. Parce qu'il est un phénomène général qui prend sa racine de la gouvernance électorale. Soyons sérieux, je crois que le procureur ne va toucher qu'au dossier qu'il sera autorisé à toucher. Donc il fera attention au regard de qui est au-dessus de lui.
Le FMI s'est montré sévère envers les autorités, allant jusqu'à demander à clarifier certaines fortunes constituées sur l'activité pétrolière. Nguela Ngousou, Brazzaville, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Un regard sur le premier anniversaire de l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump. Une fête gâchée par un shutdown de 3 jours. Mais un an après, où en sommes-nous? Le président a-t-il changé les États-Unis? Le pays tire-t-il profit des relations diplomatiques et commerciales de l'ère Trump? Quid de l'Afrique après les récents propos jugés désobligeants prêtés au président? Et quels sont ses défis pour l'an 2? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Mali, les attaques meurtrières attribuées à des djihadistes se sont multipliées malgré la présence de plusieurs forces militaires. D'abord, il y a l'armée malienne, puis la MINUSMA, les soldats français de l'opération Barkhane et la récente force du G5 Sahel. Cependant, les djihadistes sont restés très actifs et même étendent leur zone d'activité. Idriss Fall a reçu hier dans nos studios Jean-Hervé Jezekel, directeur adjoint pour l'Afrique de l'Ouest à International Crisis Group.
On pourrait même rajouter à votre liste les missions européennes ECAP et UTM, une sorte d'embouteillage sécuritaire au Mali, en tout cas sur le papier. Intervention internationale, française, européenne, onusienne. Et pour autant, la situation n'a pas arrêté de se dégrader, particulièrement ces derniers mois. Il y a véritablement une faillite, on peut le dire. Il y a des réponses sécuritaires. Je pense qu'elles n'arrivent plus aujourd'hui à endiguer l'extension de la violence armée, qui est celle des groupes djihadistes, mais qui est aussi celle d'autres éléments armés. Je crois qu'il y a eu des succès avec l'opération Serval, qui avait réussi à chasser un certain nombre de groupes hors des villes.
Dispersés.
Chassés aussi, d'une certaine manière. Mais ces groupes-là se sont réadaptés, se réimplantés dans les zones rurales, là où c'est très difficile d'aller les chercher, là où les États ne sont plus, là où les populations sont en manque aussi de services. Et là, les réponses militaires, elles n'arrivent pas à produire de l'effet durable. Une solution
donc,
finalement
le,
à l'extension.
Le terrorisme a de très beaux jours au Mali.
De très beaux jours, je ne sais pas, parce que ce n'est pas non plus facile pour eux. Au fond, c'est un djihad rural, très loin des villes. Là, ils sont aussi soumis à de forts risques. Face à eux aussi, les États utilisent des groupes pour lutter contre eux. Donc, on est dans une sorte de zone grise et une extension progressive de ces groupes-là, de plus en plus, hein, d'abord vers le centre du Mali, vers la région de Mopti, et puis aujourd'hui vers encore plus au sud, hein, vers la région de Ségou, et on approche au fond de Bamako. Et ce qu'il faudrait, c'est relancer au fond, sans doute, une sorte de solution politique.
Comment ?
D'abord, il y a un projet politique qui a été lancé, c'est le projet de paix intermalien. Il y a 2 ans et demi maintenant à Bamako, malheureusement, ce plan de paix, il a inventé peu de nouvelles solutions, il reprend l'essentiel des points qui avaient été mis en place dans les précédents accords des années 90. Et au fond, voilà, il atteint des limites. Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est au fond relancer des dialogues par le bas.
Prend Iyad Agali, c'est le leader historique des Touaregs. Aujourd'hui, on le présente comme étant terroriste. Hamadoun Koufa, qui est un peu du Massina, lui aussi, on le présente comme étant un chef djihadiste. Et il y a un autre qui s'appelle Abu Sahrawi qui se balade vers Menaka par là-bas et fait son shopping au Niger. Est-ce qu'on peut discuter avec des gens comme ça ?
Il faut distinguer deux choses. Il y a ces leaders-là et autour de ces leaders, il y a toute une série en fait, d'autres groupes qui les rejoignent par opportunisme, ce qu'on pourrait appeler des chefs de seconde zone. Et je pense que ce serait faux de penser que, par exemple, quelqu'un comme Iyad Agrali est en commande d'un mouvement parfaitement structuré, parfaitement unifié. Non, en fait, il bricole un petit peu avec des groupes sur le terrain. Il essaye d'acheter des allégeances. Il y a de l'argent qui circule, il y a des groupes qui circulent. Et je pense qu'il est possible, en menant des séries de dialogues locaux, de retirer une partie de ces éléments-là. Parler de négociations, je pense que beaucoup de gens encore sont réticents. D'abord, les partenaires internationaux sont réticents, mais même voilà, le président de la République du Mali voilà, a plutôt indiqué qu'il n'était pas prêt, pas encore disposé à franchir ce cap-là.
C'était Jean-Hervé Jézéquel, directeur adjoint pour l'Afrique de l'Ouest à International Crisis Group.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
En Côte d'Ivoire, c'est probablement en avril prochain qu'auront lieu les élections régionales, municipales et sénatoriales. Plusieurs formations politiques menacent de boycotter ces scrutins si la commission électorale indépendante n'est pas réformée. Notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, fait le point.
L'opposition ivoirienne se dit d'abord surprise par l'annonce de ces élections, une annonce faite par le chef de l'État lors de son traditionnel message de Nouvel An à la Nation. Danielle Boni-Claveri, présidente de l'URD, l'Union pour la République et la Démocratie.
Je dois vous dire que nous avons été très surpris parce que le président a toujours affirmé que ces élections locales et sénatoriales auraient lieu après la présidentielle de 2020. On nous met devant une espèce de fait accompli en nous disant que elle pourrait même avoir lieu en avril 2018. Et je dois vous dire que cette hâte, cette précipitation suscite en nous beaucoup de doutes et énormément de suspicions.
Il n'y a pas que la date de ces élections qui pose problème. Il y a aussi et surtout la composition de l'organe chargé de la conduite du processus électoral, la Commission électorale indépendante. Danielle Boni-Claveri.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme qui demande, exige de la Côte d'Ivoire la prise en compte des décisions judiciaires internationales qui font savoir à la Côte d'Ivoire que cette institution n'est pas neutre, que cette institution est déséquilibré au profit du régime et qu'il faut à tout prix la réformer profondément.
Même tonalité chez Ouattara Nyonzié, président du RPP, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage.
Cette commission n'est pas indépendante comme on le dit. Vous avez dans cette commission les partis politiques, la coalition au pouvoir est représentée, les partis d'opposition sont représentés, mais vous avez dans cette commission, le président de la République est représenté, le gouvernement est représenté, les présidents d'institutions sont représentés, ça c'est une surreprésentation. Donc elle n'est plus indépendante et puis elle est déséquilibrée.
En novembre 2016, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, saisie par une ONG ivoirienne, avait déclaré que la composition de la CEI viole le droit à l'égalité de tous devant la loi, ainsi que le droit d'avoir un organe électoral national indépendant et impartial. La Cour avait demandé à l'État ivoirien de rendre conforme sa loi électorale aux instruments internationaux, dont la Charte africaine sur les élections.
C'était un reportage de Georges Ibrahim Tunkara à Abidjan et c'est cet élément qui met fin à cette édition réalisée par Georges Léonard Sagnon plutôt. Et à la console, Aiden Outkou. Abdourahman Dia, la présentation. Merci d'avoir suivi. Au revoir.
VOA Afrique.